taxi chasing for the sun. All around us strangers.
Bonjour à tous, info spéciale en direct du Radiolab. Nous venons de prendre en otage des anciens bénévoles de Radio PFM 99.9.
Je dirais même qu'on est toujours bénévoles.
Non mais voilà, je voulais dire des anciens qui sont là depuis déjà de nombreuses années, alors que nous sommes encore de petits poussins ici dans cette radio. Alors nous sommes ici pour vous poser des questions. Alors, première question, plutôt podcast ou radio ?
Les deux. Pourquoi pas ? Après, pourquoi d'après toi ce serait quelque chose de distinct ? Enfin, j'ouvre un petit peu la discussion avec ça, mais est-ce que vous avez l'impression que le podcast et la radio, c'est diamétralement différent ? Comment vous le percevez ?
Pour moi, je fais pas du tout la même consommation de podcasts ou de radio. Enfin, les podcasts, j'écoute pour certaines choses et la radio pour d'autres choses. Donc pour moi, c'est vraiment deux moyens de m'informer sur des sujets, des thèmes différents.
Mais du coup, ça m'interroge. Quel usage tu vas avoir du podcast ou qu'est-ce que tu vas chercher dans le podcast que tu vas pas chercher en radio ?
Le podcast, ça va plus m'informer, me... Je sais pas, plus type... France Inter, France Culture, sur des questions plus historiques, enfin plus de la culture générale, je dirais. Et la radio, ça va être plus France Info, PFM, plus de l'actualité, du... C'est pas pareil.
Parce qu'après, par exemple, dans ce que t'as cité France Inter et France Culture sur le côté podcast, ouais. Qui sont en fait des radios. Donc après, c'est peut-être des podcasts d'émissions, peut-être que...
Ouais, plutôt.
Parce qu'après il y a aussi des trucs qui sont un peu podcast en eux-mêmes. Louise, qu'est-ce que t'en penses ?
Moi je rejoins Justine, je trouve que la radio je le consomme davantage pour l'actualité, tandis que dans les podcasts c'est soit pour apprendre des choses ou alors même pour me divertir. Voilà.
Moi dans les podcasts c'est vraiment différent de la radio, c'est plus des podcasts philosophiques sur le sens de la vie, plutôt des simples discussions. Voilà, où on sent que c'est moins cadré que ce qu'il peut y avoir en radio, du moins dans les grandes radios nationales, on va dire, où on sent que tout est à la minute près. Alors que les podcasts, ça peut être vraiment des très très longs formats. Moi, j'écoute des podcasts de 2 heures et on sent que c'est pas du tout contrôlé, que ça part des fois, c'est un peu hors sujet, c'est un peu loin, mais c'est beaucoup sur la vie personnelle et c'est ça qui m'intéresse aussi. Moi, je dirais que plutôt la radio, je l'écoute... Je sais pas, en allant sur la route, dans un trajet, alors qu'un podcast, moi je fais ça en peignant, je peins et en même temps j'écoute un podcast qui parle voilà, du sens de la vie. Je sais pas, c'est deux approches différentes en fait. Voilà.
Ouais.
Est-ce qu'il y en a ici d'autres qui écoutent des podcasts ? Charlie ?
Sur Spotify, il y a aussi des podcasts sur différentes plateformes. L'avantage du podcast, c'est qu'on peut l'écouter à peu près partout, sur notre téléphone, quand on a du réseau. Alors la radio, bah, soit tu installes une application de radio, soit tu utilises un casque comme antenne radio. Mais ensuite, sur les différentes utilisations du podcast et de la radio. La radio, moi je l'utilise quand il y a des priorités au direct, quand il y a des choses importantes dans l'actualité, comme un peu la télé et différents médias. Le podcast, bah, c'est plutôt des histoires, des trucs sur la mythologie, etc. Voilà.
C'est intéressant. Et du coup, est-ce que vous ne pensez pas que la radio risque de disparaître plutôt pour laisser place au podcast ?
Alors, je suis absolument pas d'accord sur le fait que le truc puisse disparaître. Alors, je vois un petit peu ce que tu veux dire sur le côté liberté de format et sur le fait que tu puisses, concrètement, tu puisses avoir des podcasts de 3 heures si tu en as envie. Je comprends un petit peu ce truc-là que tu ne peux pas forcément avoir dans le planning d'une radio, encore que... Ça peut arriver, enfin, notamment quand il y a une certaine liberté sur le planning, ça peut arriver. Alors après, ça dépend à quel rythme. Mais en fait, je pense que le podcast tel qu'il est envisagé à l'heure actuelle avec des gens qui sont indépendants et qui ne sont pas forcément rattachés à des radios, parce qu'il y a aussi tout ce côté en fait, podcast de radio qui pour moi est encore un truc à part. Je pense que c'est... je pense qu'il y a une évolution de la pratique, un peu comme ce que tu peux constater en musique, quand, à force d'influence, les choses évoluent avec de nouvelles techniques, de nouvelles choses, et font évoluer la musique en elle-même, par exemple. Bah, je pense que là, il y a quelque chose de proche. Et c'est-à-dire que, pour moi, le podcast à l'heure actuelle, avec des gens tout seuls chez eux qui prennent un micro et qui discutent pendant 2 heures, il y a une espèce d'héritage de la radio, de ce besoin que peuvent avoir les gens qu'on leur parle, qu'on leur raconte des choses et qu'éventuellement on prenne le temps de leur parler de ces choses-là. Et ça n'efface pas la radio, je pense pas, parce que on voit aussi que les radios, elles sont toujours actives au final, notamment, enfin que ce soit sur le côté mainstream national ou que sur le côté associatif, ça se développe aussi, ça permet aussi peut-être aux radios d'évoluer elles-mêmes aussi en s'inspirant d'autres choses, enfin, et c'est pas que sur le plan du podcast, hein, c'est sur un certain nombre de choses, mais je pense que les deux, quoi qu'il arrive, continueront d'exister, et ouais. Que, alors y aura peut-être effectivement des différences de consommation qui parfois se rejoignent ou pas, mais je pense que ça survivra.
Nouvelle question, est-ce que vous ne pensez pas que les sentiments, les émotions ne priment en fait sur l'information aujourd'hui ?
Non, enfin ça dépend, mais c'est-à-dire les... Bah, je sais pas si j'ai déjà vu des journalistes émus, j'ai déjà vu des choses comme ça, mais je trouve pas que ça prime sur l'information.
Ouais, dans le sens où je veux dire, peut y avoir des grands titres qui sont très accrocheurs par le fait que c'est...
Très subjectif.
Ouais, c'est très subjectif et ça joue beaucoup bah, sur les émotions, sur le fait que ça fasse peur ou que les grands titres en fait sont souvent utilisés pour faire réagir, créer ouais des émotions, ouais, des polémiques en fait. Et j'ai peur que ça prenne un peu que ça prenne trop de place par rapport à l'information.
Alors, du coup, moi je peux réagir puisque je prends la parole donc en tant que journaliste hein, de Radio PFM. Je précise, journaliste local. Je suis connecté la plupart du temps, enfin connecté c'est une grande question, mais sur France Info où je suis le fil d'info, j'hésite pas non plus, comme c'est une chaîne d'info, on continue à regarder en boucle un peu pour retenir... ce qui se passe dans le monde et même au niveau local. Je m'intéresse aussi à la presse locale également et je m'aperçois depuis un petit bout de temps, on en a discuté avec les collègues de PFM, que il y a un moment donné, il y a une surdose d'informations. C'est-à-dire que c'est pas une surdose dans le sens où il y a trop d'infos, c'est que ça tourne en boucle tout le temps et on s'aperçoit que émotionnellement parlant, ce qui s'est passé avec et là je m'adresse et c'est encore plus frustrant parce que ben, nous on est journalistes locaux. Et finalement, l'international nous touche parce que ça a un impact aussi au niveau national, mais aussi au niveau local. Donc, on a toujours essayé de traiter cette information d'un niveau, enfin, au niveau local, même si ça touche l'international ou le national. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, en tant que journaliste, on se dit, on se renseigne pour recouper ses sources, etc. Et on prend une dose d'informations qui n'est pas toujours très gaie, hein, faut dire en ce moment, c'est pas non plus la panacée. Et du coup, à un moment donné, oui, on peut saturer. Et je comprends que moi, je me suis retrouvé dans des cas où émotionnellement, quand j'entendais des choses où je voyais, je me suis dit, mais dans quel monde on vit, quoi. Et pourtant, j'ai une neutralité journalistique en me disant je vais la traiter d'information d'une façon neutre, mais jamais en fait finalement, et je reviens toujours à ce que la question, la grande question, un journaliste n'est jamais neutre. Il y a toujours un côté émotionnel qui s'installe, un côté militant aussi qui s'installe et qui fait que ben, à un moment donné, même si on essaye de transparaître justement assez neutre, ben, on n'y arrive pas parce que c'est trop dur à porter et ça a un impact sur notre physionomie et notre psychologie aussi à nous en tant qu'analyste, on va dire, de l'information.
Après, sur le côté émotionnel, enfin sur la part de l'émotion par rapport à l'information, il y a aussi un autre truc qu'il faut prendre en compte, et c'est notamment très criant sur tout ce qui va être information à la télé, c'est que vous allez avoir un certain nombre de plateaux sur des émissions qui vont se donner, d'un point de vue cosmétique, des looks de journal télé, c'est-à-dire qu'il va y avoir cette espèce de fond en vidéo avec des gens costumés, etc., et avec plein de gens qui, sur le plateau, ne sont pas journalistes. Il y a un certain nombre de... On voit de plus en plus des gens qui sont des interlocuteurs, qui sont là pour, qui sont là pour parler, en fait, pour parler de choses, qui sont des consultants, des machins, mais qui ne sont pas journalistes. Et donc, je pense que sur la question du journalisme, il n'y a pas forcément de déséquilibre entre l'info et l'émotion, mais sur ce genre de plateau qui va se donner des airs d'espace d'information et où en fait personne n'est journaliste mais tout le monde a quelque chose à dire ou tout le monde a une opinion à partager, là il va y avoir cette dimension très, très sensationnaliste. C'est ce qu'on voit, on va citer personne, mais c'est vraiment ce qu'on voit notamment sur les chaînes du groupe Bolloré. C'est ce qui se fait pas mal avec, encore une fois, tous ces gens costumés qui ont des opinions sur tout et qui vont être très enflammés sur ces opinions, qui vont être très radicaux aussi, qui vont beaucoup manquer de nuances. C'est un truc qui se déguise en info et qui du coup peut laisser penser que il y a une prise en tout cas de l'émotion sur l'info. Numériquement ça peut se vérifier, ça j'ai pas de chiffres, mais c'est vrai que ça prend une place assez importante dans ce que les gens voient quand on se connecte par exemple sur YouTube. C'est des choses qui arrivent quasiment en premier. Après, sur la question du journalisme, je pense qu'il y a quand même une bonne part d'infos qui persistent sur du vrai journalisme, quoi.
Juste pour rajouter avant que je vous donne la parole, vous jeunes du Radiolab, justement les réseaux sociaux, on vient de démettre un peu cette hypothèse avec notamment une chaîne YouTube, mais il y a aussi les réseaux sociaux, l'information sur les réseaux sociaux, tout va très vite. On a pu le constater, notamment avec des conflits internationaux entre, par exemple, la Palestine et l'Israël, où il y a eu des fake news qui se sont déroulées. C'est de pire en pire, avec notamment l'intelligence artificielle, l'IA, la fameuse IA, qui peut être super, mais en même temps qui peut être très 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 nocive. Je sais pas, j'aimerais que vous, en tant que jeune, vous exprimiez justement à ce niveau-là, les réseaux sociaux, l'information, comment vous la gérez, comment vous la prenez.
Je pense que quand on est jeune, il faut savoir essayer de démanteler un peu le vrai du faux, parce qu'on est constamment submergé d'informations sur les réseaux sociaux, mais on a beaucoup de personnes qui se revendiquent, par exemple journalistes, etc., professionnels, alors qu'ils le sont pas. Et ça peut être à l'origine de fake news, et donc il faut savoir déployer son bouclier et essayer de faire attention, je pense.
Moi, pour ma part, quand je regarde les réseaux sociaux pour avoir des infos sur l'actu, je regarde seulement des grands médias, ou sinon je regarde Brut, mais après c'est Le Monde, Libération, que les grands médias qui finalement sont allés eux-mêmes sur les réseaux sociaux, mais c'est pas des personnes qui sont autoproclamées journalistes que je vais regarder. Donc je sais que normalement, généralement, l'information est bonne, parce que voilà, c'est des grands journaux et on leur fait confiance. Et on sait aussi qu'ils ne sont pas contrôlés par des grands milliardaires. Enfin, il faut faire attention à ça. Donc voilà, je pense que... Mais après, oui, il y a beaucoup de... J'ai vu beaucoup aussi de vidéos avec le président où on transformait sa voix. Mais je pense qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de personnes qui, maintenant, savent... qu'il faut faire attention, et dans tous les commentaires que j'ai vus, les gens vraiment se moquaient. Et c'est bon, pour l'instant je pense que l'IA non plus n'est pas très efficace. On voyait que c'était quand même un peu mal fait, donc Mais les gens, je pense qu'ils sont plutôt armés avec tout ce que, tous les fake news qu'on a reçus, à se dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, et aller voir un peu partout pour voir si l'information est bonne.
Après, sur les réseaux sociaux, l'information n'est pas forcément fiable. Tout dépend de celui qui la poste, celui qui a l'origine, à la source de l'information. Du coup, il faut croiser les sources, mais sinon, oui, on peut obtenir beaucoup d'informations sur les réseaux sociaux. C'est une vaste jungle avec pas mal de choses. Et donc oui, il faut s'en méfier, mais à la fois, il faut leur faire confiance si on vérifie si l'information est fiable.
Il y a un truc auquel je pensais, c'est aussi, il y a deux jours, justement, j'avais vu, c'était juste une fille sur Instagram que je connaissais pas, et j'avais vu qu'elle avait mis un post où c'était « Le président remet en cause la notion de... » Je sais plus précisément comment ça s'appelle, mais la notion de... pas de féminicide, mais enfin de viol... Bon, je sais plus comment précisément ce que c'était les termes. Du coup, je me suis dit... Et tous les gens étaient outrés dans les commentaires. Je me suis dit, mais d'où ça sort, la fille, je la connais pas. Elle nous a encore inventé un faux truc. Et donc, j'ai été voir ailleurs et j'ai bien vu qu'effectivement, c'était un député qui avait publié ça. Ou un ministre. Bref, bon. Et que finalement, voilà, il a bien publié ça et que finalement, c'était pas l'idée du président, mais que voilà, ça remontait d'autres choses. Mais donc, effectivement, il faut vérifier, parce que tous les gens, effectivement, ont vu cette chose-là où la fille a juste réécrit ça sans faire un copier-coller, enfin sans faire une capture d'écran en fait, du message. On se dit, mais elle sort ça d'où ? D'où est-ce que ça vient ? C'était juste un message comme ça, et tous les gens étaient vite outrés. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Enfin, voilà. Nouvelle question cette fois-ci, est-ce que vous pensez que la place des femmes dans la radio ou les médias en général est suffisante ?
Je pense que comme dans un peu toutes les strates de la société, il y a des progrès à faire. Alors je pense que à l'heure actuelle, il y a un peu comme avec le greenwashing, il y a une espèce de womanwashing dans un certain nombre de grands médias et puis dans tout un tas d'institutions où en fait on coche des cases. Maintenant, je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui sont pas, qui sont de toute manière toujours pas intégrées. Puis il y a toujours une espèce de jeu de pouvoir qui se fait un petit peu, je trouve. Il y a des positions qui sont un peu compliquées, même dans la radio. Enfin, notamment un truc que j'avais trouvé assez odieux à regarder, par exemple, c'était l'interview de Carlos Ghosn par Léa Salamé. Où Léa Salamé, elle se donne une espèce de rôle à minauder avec Carlos Ghosn. On se croirait presque dans les vieilles télés des années 50 où il y avait des espèces de potiches qui étaient là pour faire à moitié drôle, à moitié machin. Je trouve que ce moment d'interview, c'est un moment que j'ai trouvé assez odieux, en plus parce que on se montrait très sympa avec un mec qui a commis des délits, quoi. Un mec qui était sous le coup de la loi et qui était en fuite sous le coup de la loi. Et donc je pense que en l'état, on est dans une situation de washing, un petit peu comme avec l'écologie, où on met de l'écologie partout, même quand il n'y en a pas vraiment, pour se donner une espèce d'air sympathique et moderne. Mais il y a encore du boulot, je pense, pour vraiment avoir une égalité active, constatable, et sur différentes questions hiérarchiques, etc. Alors, selon le média... Bien sûr, il y a des choses qui changent. Enfin, notamment, moi, je suis abonné à la chaîne de Blast sur YouTube et je trouve que la place des femmes sur Blast, elle est vraiment excellente parce que les figures de proue, alors il y a forcément Denis Robert qui est à la tête de ça, mais il y a surtout Salomé Sacquier, Paloma Moritz qui ont un rôle très important. Et là, il y a quelque chose de véridique qui se passe. Mais en même temps, on est sur Blast, on est sur quelque chose d'indépendant, sur quelque chose de très récent. Alors ça donne de l'espoir. Mais je trouve que sur tout ce qui va être mainstream, il y a encore un déséquilibre et une égalité qui est pas réelle, enfin qui est pas complètement atteinte.
Ah ouais, je voulais réagir aussi parce que alors tout dépend. En fait, je pense que pour moi sur le climat national, les femmes en radio sont très bien représentées. Il y a des exemples qu'on peut citer vite fait. Charline Vananacker, par exemple, sur France Inter, elle a rempli son rôle et on a. Enfin moi, j'ai toujours été surpris quelle émission qu'elle gère de pouvoir justement l'entendre. Après, il faut faire la différence entre là, je rejoins ta question. Est-ce que tu t'adresses à l'univers de la radio au niveau national, mais aussi l'univers de la radio dans les radios associatives? Et là, c'est différent.
Un peu partout. Hein.
Voilà. Alors, donc, nous, on s'est déjà posé plusieurs fois la question à PFM. Hein. Je pense que Adrien pourra réagir également. Nous, on ne s'explique pas pourquoi. Il y a été une période où il n'y avait pas beaucoup de femmes à PFM. Et c'est vrai qu'il y avait des tôlières, hein, dont on peut les citer, hein, les Faster Pussycat, qui étaient là depuis le début. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas de présence féminine à PFM. Maintenant, on a des collègues féminins en tant que journaliste également. Donc, ça a changé. Et puis, vous, au niveau des jeunes, bah, je constate quand même que vous êtes en majorité des filles et des femmes, des futures femmes, on va dire. Donc, du coup, je me dis que bah, on est peut-être arrivé à un détour, justement. Mais comment s'expliquer que les femmes dans la radio et dans les radios associatives soient absentes ou aient été absentes pendant une certaine période? Là, j'ai aucune explication pour ça. Donc, je ne sais pas si Adrien peut peut-être éventuellement apporter une analyse philosophique ou pas.
Vraiment pas. Et je pense que je suis pas de toute manière, je ne suis pas la bonne personne pour parler de cette question-là. Enfin, je veux dire, je ne vais pas parler à la place des femmes de leur motivation à rejoindre une radio. Après, si je peux ajouter juste une nuance par rapport à ce que tu disais, je suis d'accord avec toi sur le fait que, par exemple, Charline Vananacker sur France Inter, elle a acquis une renommée qui est vraiment importante, mais en même temps, elle s'en est pris plein la figure. Et là, son émission, elle a été bougée à un créneau plus court et moins accessible, alors que c'était une émission qui faisait une bonne audience. C'est ça qui est fou, c'est que c'est une émission qui a jamais cessé d'avoir une audience de plus en plus grande, et parce que c'était probablement trop dérangeant pour le pouvoir en place, ça a été bougé. Et alors, même si à l'heure actuelle, la directrice de France Inter est une femme, je trouve qu'il y a... Il y a quelque chose de profondément choquant dans ce qui se passe avec cette émission, justement. Et où je me demande si ça avait été d'autres pointures de la radio. Enfin, la question qui peut se poser, c'est si ça avait été une autre pointure de France Inter, est-ce que ça aurait eu lieu pareil ou dans les mêmes termes? Je ne sais pas. Mais le fait est que, voilà, on avait une femme qui a pris une importance importante dans une grande radio nationale avec une émission qui avait énormément d'audience. Et on a pu quand même, plus ou moins du jour au lendemain, décider qu'on allait lui mettre des bâtons dans les roues, en fait. Donc, je trouve que le combat est pas fini, tu vois ce que je veux dire.
Ah mais tout à fait. Alors, bah, du coup, je vais vous demander votre avis à vous, en tant que radiolabeur, qu'est-ce que vous en pensez de la place des femmes? On va donner la parole d'ailleurs à Charlie.
Sur l'émission de Charline Vomadiker, ça plaît par Jupiter, ça existait depuis très longtemps, je crois, en plus. C'était beaucoup d'humour avec beaucoup de chroniques de différents chroniqueurs, Guillaume Meurice, Émeric Lompré, voilà, il y en avait plein. Maintenant, oui, ça y est tout le temps, mais ça y est moins, c'est hebdomadaire déjà. Et puis ensuite, c'est pas 17h, quoi, c'est pas quand les gens écoutent, je sais pas quand c'est, mais c'est moins, du coup, il y a moins d'audience. Moi, je trouve ça que, comme c'est géré par l'État, et comme c'est dans le service public, etc., c'est des fonctionnaires, donc ils ont l'État à la main mise sur les radios publiques. Et donc ils ont décalé l'émission. C'est vrai que, bon, des fois, les blagues de Guillaume Meurice, c'était un peu fort, mais je veux dire, je trouve pas que c'est une raison. Si surtout ça avait fait beaucoup d'audience, c'est à leur défaveur, même si c'est contre le pouvoir en place. Et encore, je trouve que ça va mollo pour la majorité présidentielle, mais voilà.
Et du coup, là, il y a des femmes dans cette émission-là?
Oui, ouais, il y a Clara Dupont-Mono, je crois, il y a Charline Vomaker. Après, je sais pas.
Il y a Sophia Aram qui passe régulièrement, enfin qui passait, puisque maintenant elle est un petit peu en bisbille, notamment après des frasques avec une autre émission dont je ne citerai pas le nom.
Il y a aussi Laura Lone dans les humoristes qui passent assez régulièrement. Et alors, après, pour revenir au propos de base, qu'est-ce que vous pensez justement de la place des femmes dans les radios? Et puis même, comme il y a énormément de femmes autour de la table là à l'heure actuelle, qu'est-ce qui vous a lancé dans le fait de vouloir faire de la radio? Parce que même si vous aviez par exemple une appétence pour le journalisme, il y avait plein d'autres possibilités en soi. Vous auriez pu faire de l'écrit, de la vidéo, même du YouTube ou du contenu sur TikTok ou des choses comme ça. Qu'est-ce qui vous a amené à la radio?
Par rapport à cette question, déjà je dirais que c'est parce que j'aime beaucoup la radio, le côté un peu, même beaucoup intimiste, c'est peut-être moins choquant sur certaines actualités. On est près des gens et en même temps... On ne sait pas ce que font les gens, et ils font un peu... j'aime bien le côté intimiste de la radio. Et en même temps, peut-être qu'inconsciemment, il y a aussi le fait de... par rapport à la télé, pourquoi je suis partie plus vers la radio? Peut-être aussi parce qu'à la radio, on ne voit pas notre physique. Et en tant que femme, on sait qu'on va nous juger sur le physique. Donc peut-être qu'inconsciemment, il y a aussi ce truc-là de... il y aura toujours ma voix, mais tant pis, quoi. Mais déjà, il y a moins mon physique, donc il y a moins de critiques à ce... recevoir.
Parce que c'est vrai qu'on le disait, il y a tout le temps les mêmes physiques. Les femmes qui sont à la télé, elles se ressemblent toutes. Elles ont la même coiffure, elles sont habillées pareil. Elles se ressemblent énormément. Donc on se dit, en fait, pour pouvoir y accéder, il faut que je rentre dans ces cases-là pour pouvoir être présentatrice, par exemple. Mais sinon, pour revenir à ta question, Boris, sur le fait que pourquoi est-ce qu'avant, à PFM, il y avait moins de femmes, je pense aussi que c'est par rapport à l'éducation, en fait, ou juste... ça peut peut-être paraître vieux jeu, je pense quand même que c'était comme ça encore il y a quelques années, mais les femmes étaient quand même moins poussées à aller devoir s'exprimer, les hommes avaient plus confiance en eux, on va dire, parce qu'on les a poussés à aller à des postes à haute responsabilité, parce que, et juste les femmes, elles ont mis beaucoup plus de temps donc à pouvoir s'exprimer, accéder à ces postes-là, et donc... je pense que c'est ce qui a mené à ce que les femmes au début ne parlent pas, même s'il y en avait beaucoup qui parlaient d'un autre côté sur d'autres choses, mais voilà.
Donc du coup, tu penses que c'est générationnel alors en fait?
Ouais, mais je pense que de plus en plus, on voit qu'il y a de plus en plus de femmes, et c'est donc au fait que l'éducation a changé, et que donc, et aussi que les femmes se révoltent grâce à tous les mouvements qu'il y a autour, que donc elles prennent de plus en plus de place et s'expriment de plus en plus.
Et après aussi peut-être que... dans l'inconscient collectif, la voix de radio, ça va être la voix d'un homme assez grave, assez, je sais pas comment dire, charismatique. Et les femmes, elles ont pas ou très rarement cette voix-là. Donc aussi peut-être que on a peur d'avoir pas le bon ton, pas la bonne voix, trop aiguë, trop pas assez une voix de radio, quoi.
Et puis je rejoins ce que Adèle a dit. Je pense qu'on est en train de se déconstruire et on se rend compte qu'il faut laisser davantage de place aux femmes, et donc ça fait plaisir de voir que les femmes prennent plus de place et elles sont pas moins compétentes qu'un homme en raison de leur genre.
Puis pour commenter sur ce que tu disais sur les questions des voix de radio, c'est d'autant plus dommage qu'il y ait un déséquilibre parce que des deux côtés, de toute manière, il y a des voix de radio qui sont incroyables. Si on reste rien que sur France Inter, par exemple, alors c'est un peu une espèce de marotte à Radio PFM. On est tous fans de la voix de Fabrice Drouel sur France Inter parce qu'il a cette espèce de timbre un peu particulier que je trouve génial. Mais par exemple, sur France Inter, il y a Stéphanie Duncan qui raconte des éléments d'histoire de manière un petit peu théâtrale. Et je trouve que c'est un bonbon pour les oreilles parce qu'il y a une voix, il y a un travail sur la légère réverb et pour magnifier sa voix qui est vraiment géniale. Et justement, je trouve que de progresser vers quelque chose où il y a une diversité de panel vocal, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'il faut. Quand on aime l'audio, quand on aime la radio, on veut plus de voix, plus de son, quoi. Et donc c'est bien si on va dans ce sens-là, quoi.
Moi, je tenais à préciser, la personne qui a une voix un peu grave, un peu les voix comme Grand Corps Malade, tout ça, là, qui est sur France Inter, tu racontes des crimes dans le passé, je sais
c'est
pas.
C'est ça, ouais.
C'est pas
complément d'enquête, je crois, ou non, je sais plus.
Non, c'est pas
ça. Je sais
plus
comment ça s'appelle.
Ouais, ça passe vers 15h, tout ça, mais ouais. Des fois, j'écoute.
C'est génial.
Ouais, c'est très bien, la voix, elle est vraiment énorme, sa voix.
Des fois, j'écoute même pas ce qu'il raconte, juste c'est le timbre qui est génial, quoi.
Une voix vraiment très grave, ouais.
Et je crois qu'il fait aussi des podcasts des fois historiques et sa voix elle est vraiment géniale, on a l'impression d'être d'être dans une autre période, on est transporté.
Ouais, mais on parle quand même de la place de la femme, hein, du coup, sur la radio. Et moi, rien ne vaudra Rebecca Manzoni, dont c'est l'un de mes modèles, moi, en tant que journaliste, quand j'écoutais ses chroniques. Elle m'a appris à parler d'une manière différente. Et du coup, là, la place de la femme dans la radio, elle a pris toute sa mesure. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne.
Dernière question, un peu plus large. Quels sont les points positifs et négatifs dans le métier de journaliste, que ce soit radio, télé, écrit ? À Boris.
Alors, tu parles des inconvénients ou des incidents mineurs ? Parce qu'il y a des marges différentes. Hein. Tu parles vraiment...
Moi, c'est plus les inconvénients à aller dans ce métier, vers ce métier.
Alors, les inconvénients dans le métier du journalisme, si je me place à mon niveau en tant que journaliste local, il y a des inconvénients, c'est sûr, parce que on n'est pas forcément toujours au taquet sur certains sujets. On est journaliste polyvalent, on doit s'intéresser à plein de sujets. Et c'est sûr que moi, si j'avais une pièce de théâtre en tant que journaliste à traiter, aussi bien au niveau par rapport à une interview ou à un reportage, ce sera différent de quelqu'un que je vais interviewer sur un spécialiste de l'économie, par exemple, où je n'y connais pas grand-chose. Donc, il faut s'adapter à chaque fois pour avoir un public. Et puis, comme nous, on est au polyvalent, quand il y a des faits d'actualité, on est obligé de les traiter. Et là, il faut savoir de quoi on parle. Et là, c'est compliqué parce qu'on doit mener certaines aux enquêtes, on va dire, de renseignements pour pouvoir, une fois qu'on se retrouve devant la personne qui, elle, est super qualifiée, pouvoir à même d'essayer en même temps de lui poser des bonnes questions, mais ensuite, en même temps, essayer de peut-être lui poser les questions qui piquent pour, évidemment, parce que si on n'est pas d'accord, encore une fois, je reviens sur la neutralité du journaliste, hein, si nous, dans notre fort intérieur en tant que journaliste, on se dit, lui, il nous entube un petit peu de ce côté-là, eh ben, il faut arriver à trouver une question pour justement mettre en valeur la réponse que j'attends et s'il va répondre ou pas. Voilà. Après, je ne sais pas si, Adrien, toi, peut-être, en tant qu'auditeur de notre magazine d'info, sur des sujets sensibles, tu as peut-être un souvenir peut-être qui pourrait expliquer un petit peu la difficulté aussi du journaliste à traiter certaines infos qui ne sont pas forcément évidentes tout le temps.
De toute manière, vous avez un rôle très compliqué parce que vous avez un programme qui n'est pas clairement jalonné. Effectivement, vous réagissez à l'actualité. Moi, je veux dire, mon travail en tant que bénévole, quand je suis accrédité sur des événements, il est beaucoup plus simple parce que je suis toujours dans des sentiers que je connais. C'est-à-dire que quand je vais à un festival pour interviewer des groupes, etc., je suis dans ma zone de confort en permanence, avec des référents que je maîtrise, et donc effectivement, c'est beaucoup plus simple. Je suis sûr que si toi, on te lance sur un reportage qui implique le Racing Club de Lens, je pense que ça ira. tu seras dans tes jalons. Et donc ça, c'est effectivement la difficulté, parce qu'on voit énormément sur les grosses télés, sur les grosses radios, des gens qui sont très spécialisés, notamment sur tout ce qui va être question économique, politique, géopolitique, sur les questions militaires, etc. Il y a toujours des experts qu'on fait venir et qui, du coup, sont dans leur jus en permanence. Là, il faut changer de jus de temps en temps pour être proche de l'actualité. Effectivement, ça constitue quelque chose de pas évident. Parce que c'est pas forcément lié à votre formation, c'est pas forcément lié à vos centres d'intérêt, et il faut quand même réussir à en tirer le maximum. Donc effectivement, c'est pas évident.
C'est ça qui est bien ici à Radio PFM, c'est que Vous êtes des journalistes polyvalents et donc vous savez travailler tous les sujets en faisant beaucoup de recherches à l'avance. Mais il y a aussi des journalistes qui ne le font pas forcément et qui vont se mettre par exemple sur des chaînes d'infos en continu et vont essayer de dire ce qu'ils peuvent dire sur des sujets alors qu'ils n'ont pas forcément les connaissances. Du coup, j'imagine que c'est quelque chose qui fait peur parce que ça demande beaucoup de travail de pouvoir... pouvoir interviewer des personnes sur des sujets qu'on ne connaît pas forcément et dont il faut se renseigner avant.
Ouais, et je rebondis là-dessus, parce qu'on a toujours, et ça je vous le dis aussi, puisque l'équipe du Radiolab, quand on va faire un peu votre promo, vous êtes un peu peut-être les futurs journalistes qui existeront très bientôt. Et vous avez pratiqué déjà les reportages, les interviews, etc. Et la difficulté, c'est qu'on a une base de questions toujours. On doit toujours partir avec une base de questions. Moi, je me fais, et je pense que tout le monde partage mon avis, quand on fait une interview... Surtout en culture. Si c'est un interview sur un écrivain qui vient d'écrire un livre, un réalisateur ou éventuellement des acteurs qui viennent de faire un film, ou encore un groupe de musique qui vient de sortir un album, si vous n'avez aucune connaissance de livre, du film ou du disque, c'est pas la peine de faire l'interview. Vous ne savez pas, vous pouvez pas plonger dans l'univers de cette personne. Et c'est vrai que là, je rejoins ce que tu disais, Adèle. Il y a beaucoup de journalistes qui ne font pas l'effort et qui disent juste, par exemple, si je prends l'exemple du bouquin, qui lisent juste la troisième page de couve et ils ne vont pas plus loin. Et il y a déjà eu des tours d'un journaliste très réputé, dont je tairai le nom, qui s'est fait pris une soufflante par un réalisateur, pour ne pas le citer, Albert Dupontel, où le journaliste lui a avoué concrètement, et juste avant l'interview, et c'était en direct, j'ai pas vu votre film, mais ça parle de quoi ?
Aussi, Albert Dupontel, il est assez clair.
Du coup, Albert Dupontel s'est dit, vous avez pas vu mon film ? Je m'en vais. Et il est parti. Donc voilà, c'est l'exemple typique. Et il n'y a rien de pire pour un journaliste de se retrouver dans ce genre de confrontation. Donc ça, c'est un memento absolument à conserver. Il faut absolument que vous soyez au taquet sur les sujets, même si vous n'êtes pas forcément spécialiste. Alors, Adèle.
Et donc du coup, ça demande un sacré emploi du temps, parce que des fois, il faut se réveiller super tôt, ou alors il faut se coucher super tard pour être à fond sur tous les sujets. Donc est-ce que les radiolabeurs, c'est quelque chose qui peut vous faire peur d'avoir cet emploi du temps-là, ou... Le fait d'être obligé d'avoir ce bagage culturel aussi pour pouvoir être capable d'aborder tous les sujets ?
Pas du tout. Moi, j'aime bien le fait d'aller se renseigner. Même je pense que les horaires, le fait de se coucher tôt, de se lever tôt, pardon, ou de se coucher tard, personnellement, moi, ça me fait pas trop peur. Si c'est pour me renseigner et puis pour mener à bien, un projet ou une interview, ça vaut le coup.
Et puis comme ça, on en apprend tous les jours et je pense que ça peut être bien aussi de... Il n'y a pas vraiment de routine, je suppose, vu que t'arrives, tu sais pas trop ce qui va se passer dans la journée, ce que tu vas devoir faire, et puis t'en apprends tous les jours, pas forcément sur des trucs sur lesquels tu te serais renseigné en temps normal.
Mmh. Après, il y a aussi...
Oui, moi, je voulais juste intervenir. Journaliste, par exemple, c'est les journalistes qui sont sur les chaînes Apollo Ray ou chaîne d'info continue, je sais pas s'il y a RMC, tout ça, bref. Oui, ils font toujours priorité au direct, on voit tout le temps sur ces chaînes-là, là. BFM, CNews et tout. Et c'est pour dire, en fait, ces journalistes, par exemple, ils se lèvent des fois la nuit, s'il y a un tremblement de terre à Marseille. Enfin, c'est un journaliste d'actualité, c'est toujours disponible pour quelque chose qui peut arriver soudainement. Et ça, je trouve que c'est peut-être quelque chose qui leur met un peu la pression, parce que on n'est pas toujours prêt à ce moment-là, quand il faut intervenir.
Après, là, jusqu'ici, on parle de difficultés, de trucs pas faciles, de trucs potentiellement un petit peu négatifs ou de trucs qui peuvent être un petit peu repoussoirs. Mais la question que je me pose quand même, c'est Boris, toi qui es de l'autre côté, Boris, est-ce que tu aimes ton métier ?
Oui, j'aime mon métier, Boris. Parce que on fait des rencontres, que ce soit au niveau culturel, social, etc. On a alors, on pourrait en parler des heures de ce débat, parce que il y a vraiment plein de choses à dire. Par exemple, les politiques. Voilà. L'exemple typique des politiques. Forcément, quand on interviewe un élu, on sait très bien que lui, il a un discours qui va rouler, qui va dérouler. Alors, je ne vais pas reprendre l'exemple d'un personnage célèbre d'Arras, mais il a tendance, justement, une fois qu'il est parti, il faut l'arrêter. Et ça, c'est aussi la difficulté d'un journaliste, même si on ne connaît pas forcément. Moi, des fois, c'est ce genre de personnes, de politiques, d'élus, ils m'endorment. Et c'est le pire pour un journaliste, c'est d'être endormi quand on fait une interview. C'est-à-dire qu'on oublie complètement de rebondir sur ce que la personne dit à un moment donné et qui nous semble un petit peu, tiens, ça c'est bizarre, ou ça, ah oui, d'accord, ok. Et là, du coup, et la difficulté pour un journaliste, c'est ça, c'est que face à un certain public qui sont des orateurs, qui ont l'habitude de parler et qui déroulent leur discours, il faut réussir à trouver des parades, des fois, et c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il faut toujours, quand vous avez une interview, avoir un casque pour rester dans votre bulle et entendre ce que la personne dit pour pouvoir rebondir dessus. Si vous endort, si vous n'avez pas de casque, si vous n'êtes pas isolé, vous allez dormir. C'est le cas de le dire. Et puis, lui, il va dérouler son truc et après, il va dire, ben voilà, c'est fini.
Mais du coup, rassurez-vous, si vous êtes levé à 4h du matin pour préparer votre interview, l'élu, vous pourrez faire une sieste pendant le discours de l'élu. Mais la question que je me pose aussi pour vous, les radiolabeurs, en plus, il y a des gens qu'on n'entend pas trop autour de cette table, donc on va les faire causer.
Ouais, Zoé,
qu'est-ce qui
Clémence.
Vous donne envie, vous, de faire du journalisme? Qu'est-ce qui vous a mis un petit peu dedans, Zoé ou Clémence?
Moi, je vais être honnête, je ne pense pas vraiment travailler dans le journalisme plus tard. Mais j'aime beaucoup le Radiolab parce qu'on apprend plein de choses, donc c'est pour ça que j'y participe. J'ai l'impression de... j'utilise mon week-end, enfin j'ai fait quelque chose dans mon week-end parce que j'ai appris des choses, on a passé un bon moment tous ensemble. Voilà, donc c'est aussi pour ça que je fais le Radiolab.
C'est une bonne idée.
Moi, le Radiolab, j'aime bien parce que on a... Enfin, toutes les semaines, on se retrouve et on fait tout le temps des différentes choses. Soit on va sur le terrain, on va rencontrer des personnes... On apprend toujours des nouvelles choses, soit sur notre ville, sur ce qui se passe et tout. Et je trouve vraiment ça bien. Et au moins, comme dit Clémence, on fait quelque chose de notre week-end. Et ça nous... Enfin, oui, voilà. Ouais.
Et comment est-ce que vous avez découvert ce milieu dans le journalisme? Bon, c'est une question pour tout le monde, hein.
Ah, c'est une bonne question, ça. Mais on pourrait encore en parler des heures. Hein.
En gros, tu veux savoir comment je suis rentré à PFM ou...
Non, pas forcément, mais est-ce qu'il y a quelque chose... Enfin, qu'est-ce qui vous a attiré dans ce milieu, justement? Peu importe, hein, que ce soit PFM ou le journalisme en général.
Moi, le journalisme, ma mère, elle m'a raconté que déjà, quand j'étais toute petite, je regardais déjà les informations et tout. Donc, je pense que depuis toute petite, j'ai baigné dans le fait d'écouter la radio, de regarder le 20h, d'être informée. Et puis, au fur et à mesure, ça s'est transformé en quelque chose que je voulais faire moi et pas que regarder et écouter. Et puis, depuis, je dirais le confinement, je me dis que ça pourrait être un bon métier que j'aimerais faire.
Moi, je connais des journalistes personnellement, des petits journalistes. Du Nord, tout ça. Oui, je connais des journalistes et je sais ce que c'est le métier de journaliste. Et en fait, je connaissais Lou, qui était là avant, qui est parti maintenant à Paris à l'INA.
Tu nous manques, Lou.
Ouais. On connaît William, ça, son père, il nous a dit qu'il faisait un atelier ici, puis je suis venu, voilà. Mais maintenant, ça fait 3 ans peut-être.
Ouais, on peut noter aussi la présence de notre Charlie aussi national, hein, qui est l'un des premiers jeunes qui a commencé la radio à l'âge de 12 ans. Vous ne l'avez peut-être pas connu, mais on l'invitera un jour dans le Radiolab, hein, si vous ne le connaissez pas encore. Il va vous raconter son aventure, parce que maintenant, lui, il est diplômé de journalisme. Il a ses entrées un petit peu partout dans la grande sphère du journalisme. Et je pense qu'il y a une belle carrière qui est devant lui. Je ne sais pas si encore des gens veulent réagir.
Moi, pour partager un petit peu sur ma perspective, c'est que moi, j'ai jamais voulu devenir journaliste et dans ma perspective, je ne le suis toujours pas. En fait, moi, ce qui m'a motivé sur tout mon parcours auprès de PFM, ça a été motivé principalement par le fait que j'étais passionné de musique. Que j'avais envie de partager cette passion pour la musique avec d'autres gens. Et il y a un moment où, en fait, comme j'étais passionné de musique, je me posais aussi des questions par rapport aux artistes que j'écoutais. Et donc, je me suis retrouvé dans une position de journaliste, ou enfin plutôt d'intervieweur ou d'interlocuteur avec des artistes, et à me retrouver à faire des boulots que font aussi les journalistes, parce que c'était en cohérence avec ma passion pour la musique. Et de mon point de vue, je suis... toujours pas du tout journaliste, quoi. Je me retrouve à faire des trucs qui ressemblent à du journalisme quand je suis sur le terrain ou quand j'invite des gens dans mon émission. Mais moi, ce qui m'a toujours le plus motivé et qui a toujours amené plus loin mon parcours à PFM, c'est que j'étais passionné de musique, j'étais passionné de bizarrerie culturelle et que PFM m'a permis de cultiver ça.
Alors avant que Adèle reprenne la parole pour clore ce débat, juste un petit... Alors Charlie, une dernière parole peut-être ?
Ouais, j'ai encore une question pour toi Boris.
Ah.
Ça fait combien de temps que tu fais de la radio ?
Oh là là, bah voilà. Bah. Bon, bah je vais y répondre en même temps que. Voilà, juste
en des temps immémoriaux.
Avant qu'Adèle cloue le débat. La radio, ça fait combien de temps que j'en fais ? Depuis 2000. C'était grâce à. Ouais, c'était depuis l'année 2000 en fait.
T'avais quel âge, Charlie ? J'avais
peur.
Alors j'avais moins 8 ans.
On avait tous peur à ce moment-là que ce soit la fin du monde, que les ordinateurs allaient tous péter, etc.
Machin, ouais, elle est arrivée l'année d'après, la fin du monde. Ouais.
Donc je suis arrivé en 2000 en tant que bénévole avec, en collaboration avec une amie pour faire une émission. Après j'ai pris mon envol sur ma propre émission. Sachant que bah, le métier de journalisme, moi je ne l'avais pas en tête au départ. Enfin si. Quand j'étais petit, je voulais être absolument journaliste parce que ben, j'aimais bien le côté un peu reporter sur le terrain. J'avais pas non plus... voilà. Cette idée s'est enfouie un petit peu au fur et à mesure parce que, ben, comme tout le monde, on fait des boulots alimentaires, on va n'importe où, on prend ce qu'il y a, etc. etc. Et Radio PFM est arrivé. J'en dirai pas plus, voilà.
Est-ce que tu lisais Tintin quand tu étais petit ?
Oui, aussi. Dont les 7 boules de cristal, hein, c'est le livre qui m'a marqué. Voilà, j'ai fait un peu de promo pour Tintin. Donc voilà, moi c'était ma voilà. Donc Radio PFM pour moi, au niveau du journalisme, a apporté énormément. Et maintenant, si je suis toujours là, bah, c'est que bah, ça marche toujours.
Merci voilà. Boris.
Merci beaucoup à tous pour cette discussion super intéressante, tous ces témoignages. C'était le Radio Lab et nous nous retrouvons dans le prochain épisode. You were standing on the shore, listening to the ocean roar, seeing the tangled.